Proverbe 3, chapitre 3, versets 3 à 4. Que l'amour... Alors, oui, ce serait bien que tu le traduises. Mais tout... Voilà. Je peux te mettre entre les deux, mais pour qu'ils puissent comprendre. De toute façon, je te donnerai le texte. Hein. Mais assieds-toi. Enfin, fais comme tu veux, mais... Proverbe 3. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou. Grave-les sur les tablettes de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Alors, ce que je veux dire, c'est voilà, pour tous ceux qui sont mariés aujourd'hui, hein, bien évidemment, ou qui veulent se marier. Genèse, chapitre 2, verset 18, dit que l'Éternel, Dieu, dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » D'après ce passage, il est évident que Dieu n'a pas instauré le mariage pour rendre la vie plus difficile, plus pénible aux hommes. D'accord ? C'est pourquoi la formule usuelle des vœux de mariage que certainement vous avez eue lors de la cérémonie publique, hein, civile, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, est non seulement absente des Écritures, mais c'est une vision quand même très restrictive de ce qu'on peut vivre dans un mariage, même si ça peut arriver, hein, il faut être prêt. Mais je voudrais quand même que la vision du mariage soit un peu plus gaie et plus complète que cette formule lapidaire qui est dite devant Monsieur le maire. Trois penseurs, théologiens, chrétiens, ont écrit, David d'abord, oui, des pots. L'intention de Dieu pour les partenaires du mariage, c'est que ce soit des alliés. Allô ? C'est parti ? C'est que ce soit des alliés, des associés, des partenaires les plus proches. Hein, c'est le plus proche partenaire. Des amis intimes, des amants, mais aussi des guerriers dans la guerre spirituelle, contre les forces de l'ennemi, le diable, mais aussi la chair et du monde. Pour bien lutter, nous avons à tirer force, nourriture et courage de la personne même qui, de la façon la plus profonde, nous appuie et nous accompagne dans le combat, notre âme sœur pour la vie. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est David Audiyeb. Le mariage est bien plus qu'une simple convention pour surmonter la solitude ou un arrangement pratique pour perpétuer la race, faire des enfants. Premièrement et finalement, le mariage est le miroir de la relation entre l'homme, l'humain, et Dieu, le divin. C'est un miroir. Ça devrait être un miroir. Chaque couple est appelé à représenter Dieu dans sa relation parfaite avec lui-même, hein, donc Père, Fils, Esprit, hein, il y a une relation parfaite entre eux, aussi bien que dans la relation avec son peuple, Christ et son Église. Ça devrait être ce miroir-là. Le mariage a un double but. Un, révéler la gloire de Dieu et rehausser celle du conjoint. Vous vous rappelez que la Bible parle de gloire. Hein. La femme est la gloire de l'homme. Hein. Donc, il est bien question de gloire. Et le mariage, eh bien, on doit relever la gloire aussi du conjoint. Si je, le ou la, considère comme porteur de l'image de Dieu et me consacre au développement de sa beauté, de sa gloire, de tout ce qu'elle est, aussi bien lui qu'elle, pour ainsi réaliser la gloire de Dieu. Et vous, ça, c'est la plus haute destinée du mariage. Le mariage est le terrain où se cultive la gloire. Nous devons garder notre conjoint dans la perspective de ce qu'il est appelé à devenir, sans céder à l'amertume ou à la complaisance à cause de ce qu'il est maintenant. Le mariage requiert un engagement radical à aimer, de l'amour agapé, son conjoint tel qu'il est. Parce que la première chose qu'on fait quand on se marie, on veut changer l'autre. Alors là, c'est foutu d'avance. Tel qu'il est, tout en soupirant, après son devenir qui n'est pas encore manifesté. C'est comme le déjà pas encore du royaume. Il faut soupirer pour son devenir. Chaque mariage évolue vers ce qui met en valeur la gloire de chacun, ou vers ce qui contribuera à l'avilissement de chacun. C'est l'un ou l'autre. C'est comme C.S. Lewis, il disait, un chrétien, ou il devient meilleur, ou il devient pire. C'est pour ça que souvent dans les églises, vous trouvez des choses pires que dans le monde. Ben, c'est ça. Parce que, ou on devient meilleur, ou on devient pire. Pourquoi on devient pire? Parce que la spiritualité, et moi je le vois en tant que pasteur, souvent est utilisée comme une arme de destruction. On diabolise l'autre. On diabolise, parce qu'on a des armes spirituelles, donc on les retourne contre l'autre et on le détruit. Et c'est une catastrophe. Donc un chrétien, il peut devenir meilleur ou pire, mais pas entre les deux. Donc devenez meilleur, et surtout dans le couple. Il y a un autre penseur, Dan Allender, qui dit la chose suivante. Le mariage devient une grande aventure. Vous voulez une aventure? Mariez-vous. Vous n'avez pas besoin d'aller aux îles Caraïbes, vous restez ici, vous avez la plus grande aventure. C'est une découverte continue, à la fois de soi-même et de son conjoint. Une occasion quotidienne d'élargir son horizon, d'apprendre quelque chose de nouveau de la vie, de l'homme, de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être humain a besoin d'une communauté, il a besoin de partenaires, il a besoin d'une vraie rencontre, il a besoin de comprendre autrui et se sentir compris par autrui. C'est l'intention même de Dieu qui a institué le mariage. Et seul, l'homme piétine et se fige, il reste sur place. Dans sa confrontation exigeante du mariage, parce qu'il n'y a pas plus éloigné qu'une femme d'un homme et d'un homme d'une femme. C'est pour ça que maintenant l'homosexualité, elle monte. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de s'entendre entre deux hommes ou entre deux femmes qu'entre un homme et une femme. C'est simplement la logique toute simple. Voilà. Donc l'altérité est très difficile entre un homme et une femme qui sont faits totalement différemment. Ceux qui n'ont pas lu Mars et Vénus, il y en a qui ne l'ont pas encore lu, Mars et Vénus. Ah, je vous invite à le faire parce que ça vous apprendra des choses. Ah, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Bon, il y a un livre et puis il y a un DVD qui est très très bien fait. Vous allez vous marrer et passer de bons moments, mais aussi apprendre beaucoup de choses. Donc, j'en étais où? Dans la confrontation exigeante de la vie de l'homme, exigeante, où c'est que je suis perdu, vous voyez? Oui, oui. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul et que la communauté est importante, un partenaire. Donc l'intention même de Dieu en instituant le mariage, c'est qu'il y a une confrontation qui est exigeante dans le mariage. Il doit sans cesse se dépasser. On a besoin de se dépasser soi-même. Si on ne se dépasse pas, eh bien l'autre, on va le piétiner parce qu'on a toujours besoin de se dépasser. Vous savez, on apprend toujours dans le mariage jusqu'au bout. On apprend de l'autre. Et on apprend sur soi-même. Quelles sont nos limites, etc. Et on grandit. Et on évolue. Sinon, on n'évolue pas. Et quand le mariage se réduit à une association, même paisible, de deux étrangers, l'un à l'autre, il manque son but. Son but n'est pas atteint. Ils échouent dans leur destinée d'homme et de femme. Et renoncer à comprendre son conjoint, c'est renoncer à se comprendre soi-même. Et à se développer et à s'épanouir. Un dernier penseur qui a écrit sur le mariage, c'est Paul Tournier, que vous connaissez. Le mariage est quelque chose de sacré. Dans l'union de l'homme et de la femme, Dieu est réellement présent. Dans chacune de leurs relations, il poursuit son œuvre créatrice et inscrit sa jubilation jusque dans les corps. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Le mariage est sacré. Et attention, je voudrais rajouter quelque chose à ce que je viens de vous dire, un commentaire. Vous qui êtes dans la salle, si votre conjoint n'est pas converti ou s'est retiré momentanément de la foi, tout ce que je viens de dire est vrai. Les chrétiens évangéliques sont très très narrow-minded, très très étroits dans leur conception. Ils ont l'impression que si on parle que de la Bible et du spirituel, c'est du spirituel. Ça n'a rien à voir. Le plus spirituel, c'est ce qui est le plus terre-à-terre, vous voyez. C'est pas ce qui est le plus élevé. Quand vous élevez dans le culte des anges, alors là, vous êtes mal. Hein. Là, vous êtes peut-être dans le spirituel, mais dans le mauvais. Hein. Parce que le culte des anges, mais il y a beaucoup de chrétiens qui partent là-dedans. Mais moi, je dis une chose, et Jésus l'a dit, plus vous regardez les gens dans le terre-à-terre, dans le quotidien de ce qu'ils font tous les jours, le matin jusqu'au soir, c'est là que vous voyez s'ils sont spirituels ou pas. Et oui, parce que c'est l'obéissance. Si je mets en pratique ce que dit la parole, je suis spirituel. Parce que je mets en pratique. J'ai lu ce matin au culte, c'est l'obéissance qui compte. Ce n'est pas des grandes paroles. Tout le monde a des grandes paroles. C'est facile. Mais après, un maçon, on le voit au pied du mur. Voilà. Et on voit s'il a appris quelle est la verticalité et tout ça, et on voit le mur s'il est de travers ou pas. Voilà, c'est ça, c'est les fruits. Okay. Donc ce que je viens de dire, c'est vrai aussi pour les maris inconvertis. Le mariage est sacré, parce qu'il a été institué par Dieu avant la chute. Avant la chute. C'est Genèse 2. Genèse 3, c'est la chute. Genèse 2, c'est le mariage qui a été institué par Dieu. Rappelez-vous ça. Donc dans le mariage, quel que soit le mariage, y compris le mariage civil, les gens sont dans une institution sacrée, même s'ils ne le reconnaissent pas. Ça, c'est un autre problème. Reconnaître, c'est autre chose. Voilà, je termine là pour dire que nous sommes tous concernés, mais bien sûr, plus de responsabilité pour ceux qui sont chrétiens, parce qu'ils ont le Saint-Esprit pour appliquer ça. Ils n'ont plus d'excuses. Les chrétiens n'ont plus d'excuses. Plus aucune excuse. Parce que le Saint-Esprit a été donné pour l'obéissance. Voyez-vous ? Il n'a pas été donné pour faire des expériences spirituelles dans les mondes de l'au-delà, avec des soucoupes volantes, non. Il a été donné pour mettre tous les jours en pratique la parole. Est-ce que vous dites amen à ça ? Eh oui. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. On va maintenant procéder à la bénédiction de mariage. Donc je rappelle que Armen et Nariné ont été mariés devant les autorités le 2 juin 1996. Et le oui qu'ils ont prononcé devant l'autorité civile les a engagés, alors juridiquement comme mari et femme, devant les citoyens de leur nation, je pense que c'est la Géorgie, et constitue l'alliance. L'alliance qui a été prononcée est indéfectible, même si elle a été prononcée devant le maire ou l'autorité. Elle est indéfectible parce qu'elle est fondée sur l'institution biblique. Mais le mariage étant avant tout une institution divine que Dieu a établie, les engagements que maintenant vous allez prononcer dans quelques instants vous engage spirituellement. Vous êtes engagé juridiquement, mais maintenant vous êtes engagé spirituellement, parce que Dieu vous entend, vous savez que Dieu est là, et l'Église que vous êtes, et parfois on confond l'Église et le pasteur. Moi, je fais partie de l'Église, je suis membre de l'Église comme vous. Simplement, j'ai une fonction. J'ai pas à être sur un trône avec, des petits papillons qui volent et tout ça. Non, j'ai une fonction de vous apporter la parole autant que je peux. Si je dévie, dites-le-moi. Je suis simplement un fonctionnaire. Une fonction. J'assure une fonction. Okay. Mais je suis comme vous. J'ai les mêmes problèmes, difficultés et tout ça. Mais je vous représente, quelque part, je vous représente. Et le Seigneur me garde de faire plus que cela. Simplement, je vous représente cette Église, mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Donc, vous n'avez pas besoin de représentants. Vous êtes l'autorité spirituelle, l'Église locale. Et c'est pour ça qu'on le fait ensemble, pour qu'ils se sentent vraiment entourés de l'autorité de l'Église. Donc, c'est sur la base des promesses et des vœux que vous allez faire et que vous allez vous adresser mutuellement, et sur celles que Dieu a fait sur vous, je les rappellerai tout à l'heure, de sa parole, que nous déclarerons que cette alliance est conclue devant Dieu. Rappelez-vous que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec la langue, on peut donner la vie, on peut tuer. Okay ? Donc aujourd'hui, on va utiliser la langue pour donner la vie. Amen. La vie à ce couple au travers de leurs paroles. Donc je vous invite à vous lever, à vous donner les vœux. Donc je vous laisse vous aider à nous faire comprendre ce qu'ils vont se dire. Donc ils vont se donner leurs vœux. Alors j'ai bien insisté sur ce point-là, donner ses vœux, c'est parce que c'est une alliance non pas avec Dieu, c'est une alliance entre deux êtres humains devant Dieu. Et vous, c'est pas pareil. Le baptême, on va le voir tout à l'heure, est un autre type d'alliance. C'est une alliance entre Armen et Dieu. Il sera tout seul. Là, il a un vis-à-vis. Donc c'est une alliance humaine, mais sous le regard de Dieu. C'est différent. Je dis ça parce que l'Église catholique ne le voit pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes aussi du point de vue théologique quand il y a les divorces. Mais là, c'est entre eux. Donc on écoute leurs vœux qui vont se dire, et sur la base de ces vœux, on va prononcer maintenant la bénédiction tout à l'heure sur leur union au travers de leurs vœux. Alors je vous laisse donner les vœux.